Devoir de Yaël Kéré. Alors, c'est un peu contrasté parce que finalement, tu réussis à peu près saisir la problématique, mais tu n'en fais pas vraiment la démonstration, notamment sur la Première Guerre mondiale. C'est dommage. Et puis, tu n'évites pas leur sujet. On regarde en première partie quand tu pars sur la Seconde Guerre mondiale. Dorian, toute ta deuxième page. C'est dommage, hein, parce qu'il y a quand même y a de l'idée. Alors, je suis d'accord, on y va, hein, donc je suis d'accord sur histoire et mémoire. Nous nous demanderons ici quels sont les enjeux politiques de l'histoire et de la mémoire des conflits. Il faut que tu les définisses dès le départ. Et en fait, je vois bien après que tu montres bien que les enjeux politiques, c'est pour le politique. Hein, qu'est-ce qu'il a à perdre, qu'est-ce qu'il a à gagner. Il peut perdre l'unité de la nation et il peut gagner l'unité de la nation. Donc il peut apaiser, il vaut mieux apaiser. Quelquefois, il peut aussi sciemment diviser, mais bon, il n'a peut-être pas intérêt. Et donc, il recherche l'apaisement par la reconnaissance, mais la mémoire crée de la division. Elle peut aussi créer donc de la pacification, de l'apaisement. Ça, c'est intéressant. Alors, tu as choisi de diviser les exemples. Tu as dit 1, Première et Seconde Guerre mondiale, 2, Guerre d'Algérie, et de voir à chaque fois ce qui rassemble et ce qui... Enfin, ça n'arrive pas tout à fait, mais ce qui rassemble et ce qui divise. Donc, c'est pas complètement faux comme plan, hein. Donc, mais tu ne mènes pas jusqu'au bout. Moi, j'ai préféré prendre l'exemple contraire. La mémoire des conflits du XXe siècle divise, la mémoire des conflits du XXe siècle rassemble. Hein. Et donc, elle rassemble, alors évidemment, lorsque le pouvoir politique est derrière. Et donc, à chaque fois, elle divise lorsque aussi le pouvoir politique, lui, il essaye d'apaiser. Hein. Donc, voici ce que je te proposais. Alors, première partie, la Première Guerre mondiale, elle commence pas le 28 juin, c'est l'assassinat, et donc elle commence, elle, la Première Guerre mondiale, le 1er août, hein, enfin, début août 1914. Il n'y a plus de guerre offensive, c'est pas tout à fait ça, c'est que la guerre offensive est condamnée. Hein, donc, alors, tu dis que le traité de Versailles... est un enjeu politique, oui, et il sera l'une des causes de la Seconde Guerre mondiale. Alors, bon, il contribue à la montée des tensions et surtout à la montée et à la victoire des nazis en Allemagne, hein, et des nationalistes en général. Et effectivement, je suis d'accord avec toi pour son utilisation de la propagande nazie. Là, tu vois, t'es bien dans l'enjeu politique. C'est bien. Puis je te mets, c'est tout. T'es pas allé plus loin. T'as pas montré comment, finalement, les travaux des historiens sur cette question continuent, parce qu'il y a toujours un enjeu politique, hein, donc ici, et l'enjeu, les historiens, en travaillant, fournissent du matériau aux politiques. Par exemple, je pense à Christopher Clark en 2012, qui dégage un petit peu l'Allemagne de ses responsabilités. Il est australien, donc il ne peut pas être accusé d'être nationaliste. Hein. Et donc, lui, il montre que la responsabilité peut-être à chercher du côté de la Russie, de la Serbie, puis peut-être de la France. Donc, c'est intéressant pour les Allemands qui, à cette époque-là, voilà le politique, se sont réunifiés depuis 1990, hein, et cherchent à peser de nouveau en tant que puissance européenne, hein, donc sur le continent. Et pourquoi pas, hein, puisque tous les pays cherchent la puissance. Hein. Donc voilà pourquoi c'est particulièrement lu pour un ouvrage un peu spécialisé, hein, 12 éditions en Allemagne. Toi, là, je viens de te faire la démonstration que c'est un enjeu politique. Et donc, il aurait fallu essayer de le faire aussi avec Fritz Fischer, par exemple, hein, donc qu'on avait vu. Bon, sur la Seconde Guerre mondiale, alors là, ça va pas, parce que tu mets... donc, il y a des lieux de mémoire qui peuvent être concrets, bon, d'accord, et le travail des historiens, d'accord, témoignages, mais bon, j'attends l'utilisation politique. Alors, je vois, le devoir de reconnaissance de ces mémoires est très important. Alors, et puis, tu repars sur les procès. Donc, c'est tout simplement que, moi j'aurais dit, si j'avais utilisé cet exemple, hein, j'aurais dit que les mémoires, dans un premier temps, sont assez peu écoutées, parce que les sociétés européennes veulent se reconstruire et ne pas affronter les divisions. Hein. Donc, le politique n'écoute pas. Et puis, face donc à l'émergence donc des mémoires concurrentielles, hein, je pense... la mémoire des Juifs qui concurrence celle des résistants, finalement, hein, ici, parce qu'elle veut se faire entendre aussi, puisqu'ici on n'a écouté que celle des résistants, je parle de la France, hein, elle commence à se faire entendre à partir des années 70, 80, et puis elle demande reconnaissance, et puis elle demande que l'on reconnaisse que l'État français a participé à leur déportation, ou à celle de leurs parents. Et les historiens, en travaillant, confirment cette réalité historique, hein, je pense à Paxton. Et donc là, le politique, répond, et il reconnaît, discours, donc du Veldiv, de 1995. Donc il faut que tu donnes la date, tu vois. Donc je t'ai dit, là où c'est bien, c'est le but, en créant des mémorials, des musées, en multipliant le témoignage et d'unifier et de réconcilier. Alors, c'est surtout de répondre à la demande mémorielle, hein, effectivement. Et puis, pour le pouvoir politique, tu as raison, hein, d'apaiser. Donc là, c'est bien, tu vois. Alors, par contre, tu dis que ça calme les tensions entre France et Allemagne. Bon, là, il n'y en a pas. C'est à l'intérieur de la société française, hein, puisque le rapprochement politique franco-allemand, il s'est joué déjà dès les années 60. Hein, voilà. Alors, après, tu passes à la guerre d'Algérie, mais c'est pas très très bien exploité. Hein, donc, pourtant, les mémoires sont diversifiées en France, effectivement. Voilà, elle amène des tensions parce que chaque groupe de victimes demande reconnaissance, demande à être entendu, effectivement. Et donc là, il faut les identifier, notamment les pieds noirs, hein, notamment les harkis. Et là, bah, tu montres que le pouvoir politique répond, mais de manière un peu catégorielle, finalement. Hein. C'est ce qui se passe avec la politique mémorielle d'Emmanuel Macron, qui reconnaît chaque groupe, mais qui, quelquefois, répond à une demande, donc une demande politique. Hein. Donc ici, il a reconnu, alors bon, j'en ai pas trop parlé, mais les massacres de la rue d'Isly, hein, contre de pieds noirs, hein, donc, qui ont été massacrés par l'armée française après le 19 mars 1962, et il a reconnu que c'était des victimes. Bon, tout ça pour faire plaisir au groupe des pieds noirs. Voilà. Donc il y a d'autres exemples, hein, que j'ai vus en cours, mais là j'ai pas le temps de te les redonner. Enfin, si, je vais quand même prendre le temps. Je crois que j'avais pris l'exemple de la loi de 2003, hein, donc sur la reconnaissance de l'aspect positif de la colonisation, qui était portée par un député poussé par le lobby pieds noirs. Hein. Et donc là, c'est une loi qui a fait controverse, notamment chez les historiens, puisque les programmes scolaires étaient visés. Donc là, il y a une utilisation politique de la mémoire. Hein. Sur Benjamin Stora, là, attention, hein. Pourtant, bon, j'écris mal au tableau, mais c'est amnésie, hein, et donc qui crée, donc c'est l'amnistie qui crée de l'amnésie, amnésie, d'accord, et des lois d'amnistie. Hein. Donc amnistie, c'est pas la même chose. Je n'ai pas compris que, je sais pas ce que tu m'as marqué là. Donc attention. Hein. Tu n'as pas montré tout à fait. Alors c'est un petit peu rapide sur l'Algérie. Il aurait fallu montrer qu'en Algérie, le FLN avait capturé la mémoire guerrière, hein, donc de la guerre d'indépendance, et qu'il n'écoutait pas, comme c'est un pouvoir quand même, donc qui se maintient depuis 62 ans, hein, il n'entend pas les dissensions, il n'entend pas, il n'est pas question que les historiens algériens travaillent librement sur ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie du côté du FLN. Et donc, il rappelle simplement que, eh ben, ils ont gagné la guerre, puisque la FLN s'est construit dans la guerre. Hein. Donc, l'État algérien se construit dans la guerre. Donc, voilà. Tu parles des historiens et donc de leur accès aux archives, donc, ce qui n'est pas du tout le cas donc, en Algérie. Donc là, tu peux dire que l'histoire est soumise et subordonnée aux politiques. Là, tu peux, hein, le faire, parce que l'histoire, ce qu'elle cherche, c'est la vérité, et donc en Algérie, c'est pas le cas, hein, donc parce que les archives sont bouclées quand même, hein, et puis que on peut pas travailler sur ces choses-là, c'est encore tabou. Je crois que tu as utilisé le terme tabou, non, c'est pas toi. Bien sûr, d'accord, hein, le but du politique est d'unifier. Tu termines ta deuxième partie par cela, c'est correct. Hein. Alors, je suis d'accord avec ta conclusion, hein, donc finalement tu réussis à reprendre, hein, la création de musées, donc pour montrer que ben, il faut reconnaître et unifier. Les œuvres littéraires, je suis moins d'accord, hein, parce qu'elles ne sont pas utilisées politiquement. Le journal d'Anne Frank, Shoah par contre, c'est un petit peu particulier. Lee Miller, non, là, je conteste. Hein. Alors, tu fais une ouverture sur le conflit israélo-palestinien, je te mets un point d'interrogation parce que vous le faites tous, mais vous n'y arrivez pas. Dans le conflit actuel, ce qui se joue, c'est la mémoire donc des pogroms, hein, donc de la Seconde Guerre mondiale et d'avant, hein, pour les Israéliens. Et puis pour les Palestiniens, c'est la mémoire de la Nakba en 1948. Mais ça, vous ne le savez pas, vous n'y avez pas. Enfin, voilà. Donc je pense que vous ne pouvez pas utiliser comme ça, parce que pour l'instant, le conflit, on n'est ni dans l'histoire ni dans la mémoire. Hein, donc, écoute, tu sais, globalement, finalement, il y a une idée, hein, quand même, il y a elle. Donc, même s'il y a du hors-sujet, même, bon, voilà, si tout n'est pas développé, c'est dommage. Hein. Bon, je suis à 12, 13 quand même. Hein. Et donc, c'est plutôt bien. Hein, donc, j'encourage à continuer dans cette voie. Hein. Donc, t'as bien fait de garder la GGSP.